Donc, nous poursuivons notre étude de Daniel et nous sommes en Daniel 11. Daniel 11, néanmoins, on ne va pas lire tout le chapitre, peut-être l'avez-vous lu chez vous. Pour ceux qui sont passionnés d'histoire, je vous invite à prendre le chapitre 11 de Daniel, voire même tout le livre de Daniel, et puis aller chercher dans des livres historiques et regardez tous les rois qu'il y a eu d'Alexandre le Grand jusqu'à Antiochus Épiphane. Et là, vous allez vous régaler, trouver les détails, etc. Pour ceux qui sont passionnés d'histoire. Parce que, donc, au verset 2 du chapitre 11, il est dit: Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Donc, l'ange parle à Daniel et lui dit: Je vais te faire connaître la vérité. Et c'est vraiment, il va développer la vérité historique du futur, en fait, tout ce qui va se passer devant lui. Et donc, il va parler de plein de rois. Donc, Ptolémée Ier Sautère, Seleucus Ier Nicator, Ptolémée II, Ptolémée III, Séleucus III, Antiochus III, Ptolémée IV, Ptolémée IV Épiphane, Séleucus IV, et pour finir, Antiochus IV Épiphane. Voilà. Donc, si vous lisez tout ça. Je me suis dit, on va peut-être pas tout lire, c'est un long chapitre hein, et vraiment avec plus des détails historiques. Et donc j'aimerais qu'on s'attache surtout sur le dernier roi dont il parle, c'est Antiochus IV Épiphane. Et cet Antiochus-là, on sait qu'il a gouverné le royaume des Séleucides de moins 175 à moins 163 avant Jésus-Christ. Il se faisait appeler donc Antiochus Épiphane, comme d'autres rois se faisaient aussi appeler Épiphane. Et Épiphane, ça signifie l'illustre. Mais de son temps, j'ai lu que certains lui donnaient le nom d'Épimane, et ça signifie l'insensé. Vous voyez un petit peu ce qu'il était. Alors, dans le chapitre 8 de Daniel, on va revenir en Daniel 8, il était déjà un peu parlé de lui. On va lire versets 8 à 14, Daniel 8, 8 à 14. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire de l'armée et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et donc ici, on voit, il y a ce bouc avec cette grande corne, c'est Alexandre le Grand, et la corne se casse, quatre autres cornes poussent, donc c'est ces généraux qui vont se diviser. Ensuite, le royaume d'Alexandre le Grand. Et de l'une de ces cornes, eh bien, il y a une petite corne qui grandit là, et c'est Antiochus Épiphane IV. Et ce qui est frappant, c'est que il est une image de l'Antichrist. On a déjà vu ensemble qu'une prophétie a souvent un double accomplissement. Il y a une première chose que le prophète voit, qui est proche, et puis il y a souvent une deuxième chose qui est beaucoup plus éloignée. Et Daniel, lui, voit Antiochus Épiphane, qui est assez proche, mais en fait, en étant inspiré par Dieu, il est déjà en train de parler de l'Antéchrist, qui est beaucoup plus tard. L'homme impie, l'homme du péché, l'Antéchrist. Et on retrouve cela dans le chapitre 11, donc on va le reprendre et on va prendre le. Donc chapitre 11, verset 21, on va lire 21 à 37. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisé, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte. Il agira contre elle puis retournera dans son pays à une époque fixée. Il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera le chemin, mais furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura ni égard, ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes, il n'aura égard à aucun dieu. Car il se glorifiera au-dessus de tous. Je m'arrête ici. Donc vous voyez un petit peu comment est composé ce chapitre. En fait, tout le chapitre est comme ça. L'ange est en train d'expliquer des choses, des faits historiques. Alors c'est un peu difficile parce que là, ça relate les déplacements, les manigances et les actions d'Antiochus. Mais en filigrane, derrière cet homme, on voit l'Antéchrist, l'Antichrist. Antiochus est donc une image de l'Antichrist, parce que ces deux hommes présentent les mêmes caractéristiques. Quand on les compare, on voit que ce qu'Antiochus a fait, l'Antichrist le fera. Et donc j'aimerais ce matin qu'on s'occupe de l'Antichrist, on regarde un petit peu, on compare Antiochus à l'Antichrist, et puis on parlera un petit peu aussi des Antichrists. Alors tout d'abord, quelle similitude ? Tout d'abord, ces deux hommes arrivent à la fin d'une période de temps et ouvrent une nouvelle période de temps. Pourquoi ? Parce que Antiochus va venir persécuter les Juifs, il va leur faire du mal. Et un siècle et demi plus tard, c'est la première venue de Jésus-Christ qui vient apporter la délivrance et une nouvelle ère commence. À ce moment-là, on entre dans l'ère de l'Église. Après, eh bien, cet homme méchant, blasphémateur, il vient avant le Christ. Et l'Antichrist, donc, dont il est l'image, lui va venir pareillement faire du mal au peuple de Dieu, mais il vient juste avant la deuxième venue de Jésus-Christ. Et quand Christ viendra pour son second retour, il ouvrira une nouvelle ère pour les Juifs, une nouvelle ère pour le monde. Ça sera un nouveau commencement. Ensuite, ils sont tous les deux une petite corne. On vient de lire qu'Antiochus est cette petite corne, tout à l'heure on vient de lire ça dans Daniel 8, qui sort des quatre cornes du bouc. Et cette petite corne, eh bien, pousse et s'agrandit. Donc Antiochus, ça veut dire, il a ses racines, en fait, c'est du royaume d'Alexandre le Grand. Et puis ça s'étend. Mais l'Antichrist, l'homme du péché, est lui aussi une petite corne. Regardez Daniel 7. On va lire beaucoup ensemble. Hein. Je vous demande du courage et de l'attention. Daniel 7, 7 à 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et donc, on voit cette petite corne qui abaisse 3 rois, c'est l'Antichrist. Dans l'image de la petite corne, il y a pour les deux, à la fois pour Antiochus et pour l'Antichrist, l'idée finalement d'une augmentation de la puissance. C'est une petite corne, mais qui augmente, hein, qui prend de l'ampleur, qui prend de la puissance. Daniel 8, verset 9, il est dit « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles. Elle les foula. » Et on voit ici une augmentation de la puissance, notamment d'Antiochus, qui était qu'une petite corne. Et il en est ainsi de l'Antichrist que l'on voit encore en filigrane ici. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé du dragon. Le dragon, c'est le diable, c'est le serpent ancien. Donc c'est le diable qui est dans les lieux célestes. Et il est celui qui donne l'autorité à l'Antichrist, l'homme du péché qui sera sur la terre. La Bible lui donne un nom, la bête. Donc l'Antichrist est la bête. J'aimerais qu'on prenne ensemble Apocalypse 13. Gardez votre main dans Daniel, Apocalypse 13. Et on va lire les versets 4 à 7. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc c'est les hommes qui vont adorer le diable parce qu'il avait donné autorité à la bête, l'Antichrist. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ?» Et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et on voit ici dans ce dernier verset que l'Antichrist va avoir une autorité qui va être croissante jusqu'à ce qu'il ait l'autorité sur toute langue, tout peuple, toute nation. Ça va être le grand dictateur de la fin des temps. Dans ce que nous venons de lire, on voit une autre similitude, c'est que tous les deux vont faire la guerre à Israël. Antiochus a massacré beaucoup de juifs de son temps. Alors pourquoi il s'en est pris aux Juifs ? Tout à l'heure, on l'a lu en fait. C'est qu'il va vouloir aller faire la guerre en Égypte et puis ça ne va pas se passer comme il avait prévu parce que l'Égypte va demander de l'aide à Rome. Ce qui fait qu'il va se retrouver cerné par toutes les armées et confus et humilié, il va repartir vers Jérusalem. Mais fou de rage contre l'Alliance Sainte, c'est ce qu'on a lu. Et là, il va attaquer les Juifs. Il va s'en prendre aux Juifs. Dans sa colère, il va tuer 80 000 hommes, femmes, enfants et vendre des milliers pour l'esclavage. Si vous lisez les Maccabées, donc 1 et 2 Maccabées, c'est des livres qui sont dits apocryphes, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas été retenus dans le canon des livres inspirés, mais qui sont néanmoins intéressants pour tout le côté historique. Vous allez voir Antiochus là et c'est en détail hein, les massacres et comment il a fait souffrir les Juifs, comment il leur faisait renier, enfin il essayait en tout cas de leur faire renier leur foi, renier la Torah. Et on voit aussi les Juifs qui résistent et qui meurent en martyrs. C'est très touchant à lire. Et Antiochus n'est qu'une image de l'Antichrist. Alors qu'est-ce que sera l'Antichrist ? faut se poser la question. Si ça, c'est l'image, qu'est-ce que va être le vrai ? Antiochus était sans aucun doute poussé par le diable, mais l'Antichrist, il y a la pensée que finalement c'est le fils du diable. Il y a un lien avec le diable. Alors bien que la parole de Dieu ne détaille pas en détail tout ce que va faire l'Antichrist, elle dit « il fera la guerre aux saints et il les vaincra ». Mais on devine qu'il va avoir une haine terrible pour les Juifs, et il va être pire qu'Antiochus. L'Apocalypse, quand on lit, ça nous parle du sang qui sera versé, ça nous parle de martyrs qui vont beaucoup souffrir. On sait que l'Antichrist va faire un pacte avec les Juifs et qu'après 3 ans et demi, il va rompre le pacte. C'est-à-dire, il va la paix, un peu comme Antiochus, hein, il parle de paix, tout va bien, et puis d'un seul coup, il se retourne contre eux, et là, eh bien, il faudra fuir, il faudra vraiment fuir. Il va y avoir un génocide qui sera de nouveau perpétré contre les Juifs. Une autre similitude entre les deux hommes, c'est que tous les deux blasphèment le Dieu des cieux. Donc, quand on prend Daniel 8, 11, il est dit, elle, donc c'est la corne, la petite corne, Antiochus, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, en fait, c'est de l'armée céleste, c'est l'Éternel des armées, en fait. Elle va s'élever jusqu'au chef, jusqu'à l'Éternel, lui enleva le sacrifice perpétuel dans le temple, donc le sacrifice qui était fait dans les temples, dans le temple pour lui, et renversera le lieu de son sanctuaire. Donc, Antiochus va s'élever contre Dieu, il va mépriser l'adoration faite à Dieu, il va investir son sanctuaire. Et de la même manière, on voit que l'Antéchrist va avoir une bouche qui parlera avec arrogance, on l'a lu tout à l'heure. La bête, dans l'Apocalypse de Jean, a plusieurs têtes et des noms de blasphème qui sont sur sa tête. Et il est écrit « La bête ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Donc ça veut dire que l'Antéchrist va haïr ouvertement Dieu, va être contre Dieu, et ça va être impossible en fait de ne pas le reconnaître par son impiété. Il sera vraiment un impie. Ensuite, on voit que tous les deux vont souiller le sanctuaire de Dieu, donc le temple. Antiochus est entré dans le temple, il est entré dans le Saint des Saints. Il est dit qu'il a dépouillé le sanctuaire de tous ses trésors, il a tout pris, et il a consacré le temple de Dieu à Jupiter, faux dieu. Il a pris une truie ou un porc, et puis il l'a sacrifié sur l'autel de Dieu, donc l'animal impur. Il a pris le sang, il a répandu ça partout dans le sanctuaire. Il est même allé plus loin, il a remplacer les fêtes juives par des fêtes à Bacchus. Donc, il a transformé les fêtes juives en orgie. Il a interdit la circoncision des juifs, les empêchant de continuer à marquer leur alliance avec l'Éternel. Et il a empêché de lire la parole de Dieu. Et l'image nous indique ce que va faire l'Antéchrist. Là encore, au sujet de l'Antéchrist, on n'a pas tous les détails qu'on possède sur Antiochus, mais on lit par exemple en Matthieu 24, 15. Alors c'est intéressant parce que là, c'est Jésus qui parle. Matthieu 24, 15, il dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dans lequel nous sommes, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc, c'est Jésus qui cite Daniel et qui dit « Attention, ça va arriver. » Il va y avoir, il appelle cela l'abomination de la désolation, c'est-à-dire eh bien, ce sacrifice impur qui sera fait dans le temple que nous croyons sera reconstruit dans le futur. Il y a beaucoup de Juifs qui attendent impatiemment, là, ils trépignent parce qu'ils sont religieux et ils veulent reconstruire le temple à Jérusalem. Nous croyons que bien, il en sera ainsi. Le temple sera reconstruit. Et puis Jésus ajoute dans Matthieu, regardez la suite de Matthieu. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et il faut croire qu'en ces jours-là, les Juifs liront le Nouveau Testament et vont lire ces choses. Et en fait, Jésus les destinait ces choses à avertir les Juifs, à leur dire « Attention, le jour où vous verrez quelque chose comme ça, fuyez. » Et il dit « Il y aura une persécution si grande qu'il n'y en a jamais eu auparavant. » Imaginez ce que la terre a déjà vu, c'est pas beau. Eh bien, ils disent, là, ça sera le comble, le comble. Dans l'Apocalypse, on lit aussi que, la bête réclamera l'adoration et voudra qu'on adore son image. Donc l'Antichrist va vouloir prendre la place de Dieu, finalement. Et c'est une autre caractéristique de ces deux personnages. Antiochus était imbu de lui-même, il voulait prendre la place de Dieu. Lorsqu'il a accédé à son trône, il a fait frapper des pièces avec cette mention « Antiochus, Théos, Épiphanès ». Antiochus, le dieu illustre. Imaginez un peu. Alors c'est certain, quand vous regardez tous les dictateurs, à un moment dans leur folie, hein, ils se prennent pour Dieu. Hein. Il y en a un qui vient de mourir là, c'était pas loin. Hein. Mais c'est un autre trait de l'Antichrist. D'une manière qui sera encore plus réelle. Cet homme va être en quelque sorte l'incarnation de Satan, du diable, sur la terre. Si Christ, on lit dans la Genèse, vient de la postérité de la femme, l'Antichrist, lui, vient de la postérité de Satan, du serpent ancien. Donc, il est issu de lui. Et il y a un fait évident concernant le diable, c'est que le diable singe Dieu, c'est-à-dire il veut faire exactement comme Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Je garde même pas, j'ai failli dire quelque chose. Mais on voit dans l'Apocalypse, finalement, le dragon, ben, pour lui, il s'imagine qu'il est Dieu dans le ciel. La bête, c'est son incarnation sur la terre, l'image du Fils. Et dans l'Apocalypse, vous lisez qu'il y a le faux prophète. Qu'est-ce que fait le faux prophète? Le faux prophète, il élève la bête. Et là, on a une image du Saint-Esprit qui s'efface et qui élève le Fils de Dieu. Et on voit vraiment qu'il il veut faire comme Dieu, quoi. Il veut faire comme Dieu. C'est pour cette raison qu'on lit dans l'Apocalypse, je vous lis Apocalypse 13:4, « Et les hommes adorèrent le dragon » parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Donc, le diable, à un moment, va avoir ce qu'il souhaite. Les hommes l'adorant et adorant l'Antéchrist. Daniel 8, verset 25. « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. » Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera comme contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et on a ici la fin de ces deux hommes, que ce soit pour l'image Antiochus ou sa réalisation, l'Antichrist. Tous les deux sont brisés sans l'effort d'aucune main, donc ce n'est pas une main humaine qui permet qu'ils meurent. Pour Antiochus, on sait qu'il est mort d'une maladie. Apparemment, j'ai lu une maladie horrible qui l'a rongé de l'intérieur, donc dans des souffrances. Et l'Antichrist, lui, ne va pas périr de la main d'un homme, mais il va périr de la main de Dieu. C'est Dieu qui va le prendre et le jeter. Regardez Apocalypse 19, on va regarder sa fin. Apocalypse 19, 11 à 20. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et elle, avec le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voilà leur fin. Dieu va les prendre et les jeter en enfer. Et un dernier parallèle entre ces deux hommes, c'est que après leur passage, les Juifs connaissent vraiment une grande délivrance. Alors d'abord pour Antiochus, on voit en juin 167 avant Jésus-Christ, Antiochus envoie Apollonius pour faire cesser les sacrifices dans le temple de Jérusalem. Ensuite, le 25 décembre de la même année, moins 167, il commence à faire sa profanation, son sacrifice d'animal impur, et puis il dédie tout cela au faux Dieu. Mais Antiochus meurt en 164 avant Jésus-Christ, donc d'après une encyclopédie juive, et le 25 décembre de la même année, c'est Judas Maccabée. Judas Maccabée, ça vous dit quelque chose, en fait, bien, vous le retrouvez dans le livre de Maccabée. Et Judas Maccabée va restaurer les sacrifices du temple, restaurer tous les sacrifices de Moïse, purifier le temple et permettre qu'on recommence les sacrifices comme autrefois. Et puis quelques années plus tard, Israël va être carrément délivré de l'oppression des Syriens. Ça va être la délivrance pour Israël jusqu'à ce que Rome arrive. Et on sait qu'au retour de Jésus-Christ, eh bien, ça va être pareil. Il va y avoir une grande délivrance parce que la deuxième venue de Christ va ouvrir le millénium. Et dans le millénium, c'est Israël qui est restauré, le reste d'Israël qui va être purifié. Et puis Ézéchiel nous dit que les sacrifices même vont reprendre dans le temple. Donc peut-être plus pour les mêmes raisons qu'autrefois, mais en tout cas, ils vont reprendre. Et donc, après la persécution, la délivrance. Donc, par ce texte de Daniel, Dieu était déjà en train de montrer ce qu'il allait faire plus tard, quelques siècles plus tard, mais aussi deux millénaires plus tard. Alors pour nous aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, appartenant à la fin des temps, mais qu'est-ce que l'on peut tirer de tout cela? Qu'est-ce que cela nous enseigne? J'aimerais qu'on prenne 1 Jean maintenant. Et on va terminer sur 1 Jean. Et restez dans 1 Jean. 1 Jean 2, premier épître de Jean, chapitre 2 et verset 18 que nous allons lire. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, l'apôtre Jean savait qu'un antéchrist allait venir. À noter que notre traduction second, si vous avez une Louis second ici, dit antéchrist, alors qu'en réalité, dans le grec, c'est antichrist, donc antichristos. Donc voilà, c'est plus juste antichrist que antéchrist. Antéchrist, ça suggère qu'il était avant, et c'est pas faux. il était à chaque fois avant, et il est avant. Mais antichrist, ça veut dire celui qui est contre, celui qui est l'adversaire de Christ. Et c'est ce que la Bible enseigne. Donc Jean savait qu'un antichrist allait venir, mais il ne savait pas quand. Et il parle de la dernière heure. Donc ça ne signifiait pas que, ça y est, il était là, il allait arriver, bien qu'eux le pensaient, les chrétiens ne sachant pas l'heure, se disaient, il est là. Même parfois, ils regardaient les empereurs romains et se disaient, mais c'est un antichrist. Donc ils ne savaient pas quand. Mais en disant la dernière heure, c'est que l'humanité était en train d'entrer dans une nouvelle période, la période de l'Église, qui allait s'achever par la venue de l'Antichrist. Et cette période, eh bien, a duré un certain temps, cette dernière heure a duré un certain temps, mais nous sommes dans la dernière heure. Et Jean dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, en regardant l'histoire, ces 2000 ans d'histoire, on peut voir des antichrists. On se dit, mais par exemple, Hitler, qui extermine tous les juifs, n'est-il pas un antichrist d'une certaine manière? Mais il y a d'autres antichrists qui ne sont pas forcément des dictateurs, qui sont antisémites et qui font un génocide des juifs. Jean dit bien, il y a plusieurs antichrists. Regardez le verset 19. Il dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc, il nous dit qu'il y a des personnes qui fréquentent les milieux chrétiens, qui sont parfois des enfants même de vrais chrétiens, ça arrive, et qui un jour se révèlent être des antichrists. Des antichrists, des ennemis, des adversaires de Christ. Alors peut-être que vous pensez à personne là, ici, à Perpignan, mais si vous cherchez un petit peu, hein, faites des petites recherches, vous apercevez que c'est bien réel. Il y a des personnes qui sont des antichrists. Aujourd'hui, elles sont actives, elles agissent. Jésus a dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christs et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et j'aimerais vous citer un exemple d'un antichrist qui est aujourd'hui actif, vivant et actif. Il s'appelle, donc ça doit être, il est sud-américain, José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda. Alors cet homme dit qu'en 1976, il a été enlevé par deux êtres célestes qui l'ont amené dans une salle de marbre blanc. Et là, un esprit est entré en lui et l'a transformé. En sorte que, depuis ce jour, lui et Jésus ne sont plus qu'un. Donc Miranda dit, Dixit, il dit, « Depuis ce jour, plus personne n'a rien à me dire. » Eh oui, forcément. Puisqu'ils sont un. Donc, je ne sais pas quelle a été la croissance du groupe, mais quand on visite le site, apparemment, ils sont toujours là, ils prospèrent. Mais en 2006, ils avaient formé 300 autres groupes locaux en Amérique latine. Donc, c'était exponentiel, apparemment. Alors, il se fait appeler aujourd'hui, c'est assez récent, hein, ça fait quelques années, The Man Christ Jesus, l'homme Christ Jésus. Il est l'homme Christ Jésus. Il signe tous ses articles, l'homme Christ Jésus. Alors quand vous regardez ces doctrines, c'est impressionnant de perversité. L'un de ses leitmotifs et la chose qui ouvre sur le site, c'est croître dans la grâce. Ça sonne bien ça, hein? C'est vrai. C'est une vérité, croître dans la grâce. En haut, il met que depuis 2006, donc, il accuse publiquement les religions d'avoir menti au monde. Voilà la vérité. Donc, sa vérité, c'est ça. Il n'y a plus de péché. Alors, attention, il ne développe pas avec ses propres arguments. Non, il prend la parole de Dieu. Il n'y a plus de péché et il met une liste de versets. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a plus de péché. Il ne l'explique même pas, il met que les versets, mais que ces versets-là. Donc il les sélectionne bien. Donc il n'y a plus de péché, Jésus a ôté le péché n'existe plus, tout va bien. Ensuite, le diable n'existe pas, n'existe plus, et les démons non plus. Il y a des versets hein, qui disent qu'il sera chassé de ce monde, etc. Ça n'existe plus, il n'y a plus de diable. Il y a deux évangiles, celui des incirconcis. Alors celui des incirconcis, nous les païens, c'est de Romains jusque Hébreux. Et puis celui des circoncis, des juifs, c'est de Jacques jusqu'à Apocalypse. Donc il divise en deux. Donc ce qui vous concerne, ce qui nous concernerait, ce serait simplement Romains jusqu'à Hébreux. Donc il parle de la prédestination, il y croit. Il dit que la Bible est inspirée, mais quand il parle d'inspiration, il sépare l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il dit qu'en fait, Jésus a dit qu'il s'est révélé, vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, il s'est révélé dans toutes les Écritures, de Moïse jusqu'aux prophètes. Donc pour lui, ça c'est les Écritures, de Moïse à prophète. Ensuite, les Évangiles et les Actes, ça c'est des écrits historiques, donc c'est des pensées d'hommes. Ça non, c'est pas inspiré. Voilà un peu, ça vous donne sa doctrine. Pas de péché. Ah oui, un dernier point, j'ai oublié. Important. Il n'y a plus qu'un seul ministère, c'est celui de la réconciliation, pas de la repentance. Donc, on doit croître dans la grâce, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, et il n'y a pas de repentance. Vous êtes libre en Christ, faites ce que vous voulez. Incroyable. Alors, je me doute, c'est un évangile qui plaît bien, ça. Hein? On vous dit, mais il n'y a pas de problème. Regardez, gardez votre main dans Jean et regardez Jude. Donc Jude qui est juste après, là. Donc après la troisième épître de Jean, une ou deux pages après, Jude. Et regardez le verset 4. Il dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Quoi de plus clair? En fait, c'est un verset, mais c'est vraiment pour José, Louis, de Jésus, de Miranda. Ah mais non! Ah non, Jude, c'est entre Jacques et l'Apocalypse. Ah, c'est l'évangile des circoncis, des juifs, ça ne le concerne pas. Voyez un peu la perversion, comment le diable tord les Écritures, coupe, sépare, voilà, et fait sa propre doctrine qui va bien aux hommes. Il est vraiment l'adversaire de Christ. Mais des milliers, apparemment, de gens suivent sa doctrine. Et alors, écoutez bien ça. Il s'est fait tatouer le 666 sur le bras. Alors, jusqu'où il va? Il dit... Il faut arrêter d'avoir peur de ce nombre. C'est le diable qui fait peur avec ce nombre. Il faut briser l'empire du diable qui est mort, qui n'existe plus. Mais il faut le briser et puis voilà, on inscrit le 666. Et alors il va dire que la sagesse est dans ce nombre. Et oui, la sagesse. En fait, la parole de Dieu dit que celui qui est sage va comprendre ce que signifie ce nombre. Mais lui, il dit non, la sagesse est dans ce nombre. Et si vous voulez le savoir, pour lui, 666, c'est le nombre de Jésus-Christ qui annonce sa deuxième venue. On inverse tout. On mélange tout. Et finalement, eh bien, voilà, vous voyez qui prend la place de qui. Comment on retourne la chose. Et l'incroyable, c'est qu'il dit, faites-vous tatouer 666. Et ils le font. Des milliers le font. Et vous voyez des milliers qui le font avec le sourire. Il y a des vidéos en pagaille, des enfants, des personnes âgées, parfois avec son nom, avec ses initiales de cet homme. Vous voyez un peu le... Alors après, vous comprenez un petit peu plus loin, quand vous avancez, qu'il dit que l'homme Christ Jésus est l'Antichrist. Il dit carrément, je suis l'Antichrist, je suis un Antichrist. Et Paul était un Antichrist. Alors, je ne sais pas comment il pervertit la vérité,
Mais vous voyez un antichrist là, c'est clair, il le dit, il l'affiche.
Des faux Christs qui se disent être le Christ, donc il y en a, comme Jésus l'a dit, aujourd'hui qui sont actifs, des adversaires de Christ, des antichrists, et ça invite à être vigilant, vraiment, parce qu'on est dans la dernière heure, c'est la dernière heure. Bien sûr, Jésus a dit, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ça sous-entend que les élus ne peuvent pas être séduits par ce genre de choses. Et c'est vrai que nous, on entend ça, on s'hérisse et on dit « mais c'est pas possible ça, on sent qu'il y a un vrai problème ». Regardez Jean dans notre chapitre 2, versets 20 et 21. Il dit, 1 Jean 2, 20, 21, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Et c'est clair que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent l'onction de Dieu. Et ça permet d'ouvrir les yeux et dire, oh là, attention, danger, danger. Et on voit clair. Mais parfois, vous savez, la séduction, elle vient du cœur même de l'Église. Elle est dans l'Église. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Donc ça veut dire que beaucoup de sectes et de choses comme ça prennent leur source dans les milieux chrétiens, au milieu des frères et sœurs, au milieu des églises. Par exemple, Joseph Smith, ça vous dit quelque chose ? Les Mormons, donc le fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il était issu d'une famille presbytérienne, donc il était en contact avec des chrétiens, il était des nôtres, mais il est sorti pour faire sa propre mouvement. Et curieusement, lui aussi, il a eu des révélations. Il était emmené aussi par quelqu'un. Charles Taze Russell, lui aussi, issu famille presbytérienne. Ensuite, il se joint à une église congrégationaliste, donc ça, c'est beaucoup plus comme ce que nous sommes. Ensuite, il devient adventiste. Et pour finir, il les quitte tous pour fonder son propre groupe, les étudiants de la Bible, qui deviennent plus tard les témoins de Jéhovah. Marie Baker Eddy faisait partie d'une église congrégationaliste aux États-Unis. Après une guérison miraculeuse, elle fonde la Science chrétienne. Donc un mouvement qui regroupe, enfin il y a plusieurs années, ça regroupait 520 000 membres. Ce n'est ni chrétien, ni scientifique. Et aujourd'hui, il y a des mouvements, des églises, des organisations qui ont la couleur d'un christianisme authentique, mais qui présentent des caractéristiques que ça part à la dérive. Il semble que leur fondateur soit chrétien, en apparence, mais il y a comme des signes précurseurs qui doivent allumer des voyants rouges, disant « oula, attention ». Par exemple, dans ces mouvements, il y a un isolement du corps, je dirais, universel de Jésus-Christ. C'est-à-dire que on va séparer son groupe ou son mouvement de l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire de toutes les églises évangéliques et tous les vrais chrétiens qui sont nés de nouveau. Ils se considèrent avec eux, mais voilà, ils sont quand même différents. Ils sont quand même différents. Dans ces mouvements, souvent, il y a un patriarche, un chef unique, avec une autorité absolue, on ne peut pas le remettre en question, parce qu'il dit lui-même qu'il est la voix de Dieu pour notre temps, comme Noé était la voix de Dieu dans son temps. Moïse était la voix de Dieu. Donc, lui, il est la voix de Dieu. Donc, voilà, on ne peut pas le remettre en question. Il y a aussi, dans ces mouvements, une inhibition du jugement spirituel des membres, donc un formatage, en fait, de la pensée des membres, souvent avec beaucoup d'écrits. Il y a toutes les revues du fondateur, tous les livres du fondateur, il faut lire, ça fait partie de la règle. Il faut lire ce que le prophète ou le fondateur a écrit. Donc les chrétiens, petit à petit, perdent
leur jugement propre. Ils sont, voilà, perdus dans les raisonnements de ces livres. Il y a aussi l'idée que si on quitte le mouvement, on est perdu. Hors de nous, pas de salut, ou un salut moindre, un salut pas pareil, quoi, hein, le meilleur, c'est avec nous. Et puis, il y a des nouvelles idées. Parfois, il y a plein de bonnes choses et la vérité. Le diable mélange la vérité et l'erreur. Mais il y a des nouvelles idées. Des nouvelles idées que l'Église, de vrais croyants, n'entérine pas. Dit, oh là, attention. Vous savez, quand vous avez une idée bizarre, ben, allez voir un peu ailleurs. Et s'il n'y a personne qui pense comme vous, bon, ben, vous mettez l'idée de côté et vous dites, je ne sais pas. Hein? Parce que c'est pas bon signe quand même. Hein? C'est pas bon signe parce qu'il y a l'esprit de Christ qui nous conduit dans une direction. Donc on doit se retrouver ensemble. Hein? Voilà, il n'y a qu'une doctrine, qu'une foi, qu'un seul salut. Donc ça, c'est tous des indices où là, attention, ça part à la dérive là. Hein? Ça part dans une mauvaise direction. Parfois, certaines personnes, vous les rencontrez. Et elles semblent être d'une spiritualité qui dépasse la moyenne. Vraiment, elles sont dans les cimes de la spiritualité. Ce sont des chrétiens, on pourrait dire, supra-spirituels. Une élite. En tout cas, c'est le sentiment que vous en retirez. Eux sont quasiment arrivés, ils sont dans les hauteurs. Hein, et vous, vous êtes un chrétien en bas, là, et vous n'avez rien compris à la vérité, hein, ou si peu de la vérité. Quand vous faites ce genre de rencontre, vos voyants rouges doivent s'allumer. Attention, attention. Bien sûr, on trouvera toujours, et Dieu soit loué, quelqu'un qui est devant nous, qui a plus compris, qui sait plus que nous, qui va nous enseigner, hein, qui va nous apprendre, qui va nous élever un peu plus loin dans la volonté de Dieu et vers le Seigneur. Mais il faut faire la différence entre un chrétien humble que vous sentez sur votre niveau et qui vous partage ce qu'il a reçu, d'une personne qui vous fait ressentir que vous n'avez pas compris, qu'il vous manque quelque chose, que vraiment il y a une marche supérieure, une marche supérieure. Quand il semble y avoir vraiment une supériorité spirituelle et on ne manque pas de vous la faire ressentir, alors, voyant rouge, vigilance. Le charisme, ça peut être un outil utile, mais c'est aussi une arme redoutable. Regardez, on va terminer sur 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et l'Antichrist, il aura du charisme, sans aucun doute, on le sait, il va gagner les cœurs des foules, par sa capacité à parler, mais pas au travers de l'Esprit de Dieu, au travers de l'Esprit du diable. Et Dieu veut qu'on ait le discernement, qu'on ait la prudence, et puis ben, qu'on sache différencier hein, l'Esprit qui vient du diable de l'Esprit qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. On va s'incliner dans la prière.